Bonjour tout le monde. On va aller ensemble dans la lecture des Écritures et ce matin, Julie et Joël vont nous lire trois passages dans les Écritures. Mais juste avant, quelques rappels, des petites annonces très, très brèves. Dimanche prochain, on a un vote important, c'est très excitant. À la fin du service, ça va être très bref, très court, mais il va y avoir le vote donc sur la candidature de Luigi Pugliese comme pasteur exécutif en formation. Alors, dimanche prochain, ne manquez pas ça, c'est important, on va avoir le vote de tous les membres autant que possible. Et pour ceux qui savent d'avance que vous ne serez pas là dimanche prochain, vous avez un empêchement, c'est possible de voter par anticipation. Alors, à la fin du service, il y a une table qui va être à l'arrière, juste vous diriger là-bas. Je crois que c'est Manon qui va être à la table, mais simplement allez la voir pour remplir votre formulaire, voter par anticipation. Si vous êtes membre, bien sûr, seuls les membres peuvent participer à un tel vote. On vous mentionne aussi que Luigi et Mireille avaient donné leur témoignage. Il y a déjà plusieurs semaines, le témoignage est disponible en format MP3. Simplement allez au kiosque d'enregistrement à la fin du service si jamais vous voulez prendre une copie du témoignage de Luigi et Mireille. Alors ce matin, il va y avoir trois lectures, d'accord? On va s'étendre un petit peu dans la lecture des Écritures. Julie et Joël vont nous conduire dans ces deux passages. On retourne dans la série sur la vision. Il y a deux semaines, on a commencé à regarder ensemble la série sur la vision. Et ce matin, on va parler ensemble des valeurs dans lesquelles on veut grandir comme Église. Et donc, ils vont nous conduire dans des passages qui nous parlent du cœur de Dieu, du cœur de Christ, de son attitude, qui nous parlent aussi de l'Église que nous voulons devenir. On veut grandir à l'image de l'Église qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Soyez bien attentifs à la lecture de la parole. On va aller dans le livre des Actes, ensuite de ça dans le livre de l'Apocalypse, et puis on va aller dans le Petit Prophète dans l'Ancien Testament, le livre d'Osée.
Acte 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Je répondrai au ciel et il répondra à la terre.
On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, on est assemblés dans ta présence pour entendre ta parole, Seigneur, pour laisser cette parole séduire encore une fois nos cœurs, nous dire combien tu nous aimes. Combien tu chéris cette relation, Seigneur. Éternel, tu es Dieu. Tu nous as donné la vie. Et chaque jour, tu nous donnes la vie spirituelle pour marcher avec toi, Seigneur, dans tes voies. Fais-nous grandir, Seigneur, dans notre foi pour que nous prenions ta parole au mot. Que nous prenions chaque passage des Écritures comme vérité divine, que nous cherchions de tout notre cœur à appliquer ces choses dans nos vies, afin de voir ta gloire au milieu de nous, Seigneur, au milieu de cette Église. Afin, Seigneur, d'aimer cette ville qui a tellement besoin d'entendre parler de toi, Jésus-Christ, et qui a tellement besoin de voir une Église vivre pour toi, Seigneur. Père, nous vivons à une époque d'individualité. Nous vivons à une époque où chacun cherche ce qui lui plaît, ordonne sa vie comme bon lui semble. Et si peu de gens te connaissent, Seigneur, si peu de gens ont connu tes voix, ont connu ta parole, si peu de gens ont connu ton amour et ta grâce, Seigneur. Et le désir de nos cœurs, c'est simplement d'aller partager l'Évangile de Jésus-Christ, simplement de partager cette bonne nouvelle, Seigneur, et de vivre comme un peuple, comme une famille différente, mais avec humilité, Seigneur, reconnaissant que tout nous est accordé par grâce et que ce que nous devenons de jour en jour, c'est toi qui l'accomplis en nous, Seigneur. Seigneur, je te prie de venir nous parler ce matin, de venir enflammer nos cœurs pour cette vision qui vient de ta parole, qui est appuyée sur les saintes Écritures, Seigneur. Viens remplir nos cœurs par ton esprit. Parce que, Seigneur, lorsque nos cœurs sont froids, quand ton esprit ne nous parle pas, Seigneur, nous redevenons apathiques, Seigneur, endormis, sans zèle pour toi, Seigneur. Mais saisis-nous par ton esprit. Viens et dis-nous encore combien tu nous aimes, afin que toutes les idoles qui peuvent être présentes dans nos cœurs et dans nos vies soient chassées bien loin de nos vies et ne soient plus nommées parmi nous, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Des beaux passages de la parole, des passages qui font rêver, qui nous parlent de Dieu. Ce matin, on continue la série sur la vision. Et donc, ce sont des messages un petit peu différents, d'accord, qu'on apporte il y a deux semaines, puis cette semaine, la semaine prochaine. Je n'ai pas un texte biblique que je suis en train d'exposer, ce qui est dans notre habitude ici, et on retombe dans deux semaines avec une série, on va exposer un livre de la Bible, d'accord. Mais en même temps, c'est un moment important parce qu'on est en train de résumer à travers quelques idées ce que nous voulons devenir comme Église, là où on veut grandir. Alors, je vous ramène en arrière. Il y a deux semaines, si vous n'étiez pas là, c'est vraiment important que vous alliez écouter ce message-là sur le site web, podcast, que vous alliez chercher une copie, tout simplement. C'est super important. La semaine dernière, on a vu l'énoncé de vision et je le rappelle à votre mémoire. Nous voulons devenir, par la grâce de Dieu, une église centrée sur l'évangile de Jésus-Christ. Une famille qui marche tout près de Dieu et qui déborde d'amour, de générosité pour son prochain. Voilà ce qu'on veut devenir, d'accord? Ça, c'est l'énoncé de vision. Ça, c'est ce qu'on garde devant nos yeux jusqu'à ce que Dieu l'accomplisse au milieu de nous. Et par la grâce de Dieu, par l'œuvre de son esprit au milieu de nous, à quelque part au cours des 5 prochaines années, à un certain moment donné, il y a un consensus qui va s'installer au milieu de nous où on va dire, c'est fait. C'est fait. OK, j'ai toutes sortes d'images niaiseuses qui s'en viennent. On va dire à un certain moment donné, lorsqu'on va être en train de jaser, comme une sœur m'a dit, il y a quelques semaines, il y a une sœur qui a vraiment béni mon cœur. Puis elle est juste venue me voir, puis elle m'a dit, Yannick, est-ce que tu réalises l'unité puis l'amour qu'il y a dans l'Église de l'espoir maintenant? Écoutez, mon cœur, j'étais prêt à fondre en larmes juste là. Parce qu'on ne passe pas nos semaines à se dire, waouh, wow, on a fait une bonne job. Tellement conscient qu'on n'est pas à la hauteur pour faire ça. Mais elle faisait juste constater l'œuvre de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. C'est tout. Et c'est extraordinaire. À un certain moment donné, au cours des 5 prochaines années, devenir une église centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ. Une famille qui marche tout près de Dieu. On a vu ça il y a 2 semaines, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, marcher tout près de Dieu? Qui déborde d'amour et de générosité pour son prochain. Par la grâce de Dieu, et j'ai entièrement la foi que ça va se faire, à un certain moment donné, quand on va jaser ensemble, on va se dire, c'est fait. Voilà où on est rendu. Puis on va commencer à dire, OK, Seigneur, où est-ce que tu veux nous amener maintenant? C'est quoi la prochaine étape? Ça, c'est l'énoncé de vision, d'accord? Et on veut garder ça devant nos yeux. C'est ça qu'on veut devenir. C'est ça qui doit nous définir comme Église. Mais la semaine dernière, je vous ai partagé aussi comment est-ce qu'on va travailler pour avancer dans ça. Bien, ça nous demande de travailler sur des éléments plus concrets. Alors, il y a un certain nombre de valeurs, des choses qui, on veut, nous caractérisent d'ici au cours des 5 prochaines années. Et donc, on a parlé, il y a 2 semaines, de deux groupes de valeurs différentes. D'accord? Les valeurs qu'on a appelées, encore une fois, c'est pas comme super chic, là, c'est pas trendy comme titre, mais ça dit ce que ça veut dire. Des valeurs racines, d'accord? Puis des valeurs défis. Les valeurs racines, ce sont des choses qui, par notre histoire, l'Église de l'Espoir, on l'a pas créée il y a 2 ans, 3 ans, elle a une histoire. Par notre histoire, ces choses-là font partie de notre histoire. Ce sont des valeurs depuis la fondation de l'Église de l'Espoir. Lorsque M. Beau est parti de France travailler avec M. Frey, les doyens ici qui ont connu l'implantation de cette Église-là, c'était des valeurs importantes. On va parler de ces valeurs-là ce matin. Parce qu'on a encore à grandir dans ces valeurs-là. On ne doit jamais les quitter, au contraire. On veut approfondir nos racines et être plus « grounded », si vous me permettez l'anglicisme. Les autres valeurs dont on va parler la semaine prochaine, on les a appelées les valeurs défis. Celles-là vont nous brasser un petit peu plus, vont nous faire sortir un petit peu plus de notre zone de confort parce qu'on veut grandir davantage pour ressembler à Jésus-Christ. Et ça va brasser un petit peu plus en profondeur, d'accord? Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble la semaine prochaine. Et s'attache à ça des actions qu'on veut prendre. Il y a des choses, des gestes qu'on doit poser pour pouvoir grandir dans ces valeurs-là. Certaines de ces actions-là concernent toute l'Église au complet. Par exemple, dimanche prochain, il y a un vote. Il y a un vote pour l'embauche, Dieu voulant, si l'Assemblée dit « Amen », l'embauche d'un pasteur exécutif en formation. Vous dites, mais où ça rentre dans tout ça? Ça rentre là-dedans à fond. Maintenant, ça concerne toute l'Église. Ça ne vous concerne pas nécessairement individuellement, mais pour se rendre là, ça va prendre plus de diacres, plus de diaconesses. Il va falloir organiser un petit peu plus notre service, être un peu plus attentif sur certains ministères. Ça va être un rôle particulier qui va être lié au pasteur exécutif en formation. Donc, il y a des choses qui concernent toute l'Église, le leadership, et d'autres qui sont personnelles. Des défis qu'on va vous présenter très pratiques et concrets au fur et à mesure des mois qui vont venir, des années qui vont venir. Concrètement, notre mandat qu'on se donne, nous, c'est de retourner sur ces valeurs-là et dire, OK, comment on travaille sur cette valeur-là? Évidemment, Dieu travaille à travers toute la vie d'Église, à travers notre communion avec Dieu, tout ça, mais des défis concrets, donc des actions, d'accord? Alors, par la grâce de Dieu, nous voulons devenir une église centrée sur l'évangile de Jésus-Christ, une famille qui marche tout près de Dieu, qui déborde d'amour, de générosité pour son prochain. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les 5 premières valeurs. ne sont pas dans cet ordre-là. Après, vous allez voir, on va jouer un peu avec, mais cinq valeurs racines, d'accord? Voici comment on les introduit. Si on peut les afficher, s'il vous plaît. On a une phrase d'introduction. « Je rêve de milliers de personnes à Longueuil, disciples de Jésus-Christ. » Et si on avait voulu inclure toutes les églises évangéliques de la Rive-Sud, on aurait parlé de dizaines de milliers, d'accord? Mais on va se concentrer sur notre église locale pour commencer, c'est bon? « Je rêve de milliers de personnes à Longueuil, disciples de Jésus-Christ. » Et voici cinq valeurs dans lesquelles on doit continuer à grandir. Premièrement, une église émerveillée par l'Évangile. Une église qui connaît la parole de Dieu sur le bout de ses doigts. Une église qui s'investit à fond dans la formation de disciples. Une église qui envoie des équipes solides implanter d'autres assemblées, d'autres églises. Une église qui envoie des missionnaires dans toutes les nations de la terre. Et j'espère que vous avez remarqué l'aspect emphatique ou l'emphase qu'on met dans chacune de ces valeurs-là. Parce que chacune d'entre elles, si vous les lisez, vous allez dire, ben c'est quand même ça notre histoire. C'est de là qu'on vient. On a cherché depuis la fondation de cette église à prêcher l'Évangile de manière solide. On a cherché à former des disciples. On a plongé dans les saintes Écritures. Mais voyez-vous, on doit aller plus loin encore. On doit approfondir nos racines. On doit aller plus loin dans tous ces domaines-là. Et on veut devenir une église non seulement qui connaît l'Évangile, mais qui est émerveillée par l'Évangile. Constamment. On veut devenir une église non seulement qui connaît la parole de Dieu, mais qui la connaît sur le bout de ses doigts. On veut devenir une église qui s'investit dans la formation de disciples, mais qui s'investit à fond dans la formation de disciples. Ça veut dire que ça va nous concerner chacun d'entre nous. Une église qui envoie des équipes solides implanter des églises. Ça fait partie de notre histoire, pas de notre histoire récente. Une église qui envoie des missionnaires dans toutes les nations de la terre. Ça, là, c'est ambitieux, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a du monde ici qui vont décoller. Je rêve de milliers de personnes à Longueuil, disciples de Jésus-Christ. On a commencé ce matin en lisant ce passage dans Actes 2. Et c'est pas innocemment si on s'est tourné vers Actes 2 pour commencer cette vision de l'Église. Retournez avec moi dans Actes 2, verset 41. C'est tentant pour nous de lire ces passages-là et de les voir comme une histoire du passé. D'accord? Moi, j'ai été mis au défi par des hommes de Dieu depuis quelques années à revenir à ces passages-là puis à dire, oui, mais attends un peu. Est-ce que dans Actes, on ne voit pas l'accomplissement des promesses de Jésus? Est-ce que dans les épîtres qui suivent, est-ce qu'on ne voit pas l'accomplissement des promesses de Jésus? Donc, cette église qu'on trouve dans le livre des Actes et qu'on va trouver dans l'ensemble du Nouveau Testament, est-ce que ce n'est pas l'église que Christ est en train d'établir? Mais c'est tentant pour nous de lire ces passages-là et de se dire, il fut un temps. Il fut un temps où l'Église ressemblait à ça. Maintenant, c'est cette Église-là que nous voulons être. C'est cette Église-là que nous voulons être parce que nous croyons profondément que Dieu ne change pas. Nous croyons profondément que Dieu demeure le même. Que Dieu est aussi puissant qu'il l'était à cette époque-là. Sa batterie ne s'est pas déchargée. Dieu est aussi grand, est aussi majestueux. Et lorsque j'arrive à la fin du passage, au verset 46-47, on lit « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » On aurait pu dire auprès de la ville, d'accord? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà ce que nous voulons vivre ici. Voici ce que je veux pour l'Église de l'Espoir. Voici ce que les anciens veulent pour l'Église de l'Espoir. Et voici ce que je veux pour la ville de Longueuil. Parce que ce n'est pas juste une question que nous, lorsqu'on se rencontre, on soit en train de triper solide, à dire « Wow, le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous, c'est hot ce qu'on vit ici. » Ce serait encore égoïste de penser comme ça. Mais on veut vivre ça pour être un témoignage puissant pour la ville de Longueuil. Pour le salut des âmes, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ont besoin de voir cette Église-là. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le passage, c'est la manifestation d'amour, d'amour pour la parole, d'amour les uns pour les autres. Et il y a toute la dimension des miracles, et je sais, certains d'entre vous vous disent, « Ouais, mais t'es-tu en train de nous dire, Yannick, qu'on va vivre tout ça? » Ça, c'est le morceau que je laisse entre les mains de Dieu, d'accord? Dans le sens que moi, personnellement, les miracles, je n'ai pas de problème avec ça. Honnêtement, je n'ai pas de problème avec ça. Dieu en fait quand il veut. C'est extraordinaire lorsqu'il en fait. Je ne crois pas qu'il y ait de formule pour que Dieu fasse ces choses-là. D'accord? Alors, si vous venez me dire, oui, mais il y en a que c'est juste parce qu'on manque de foi. C'est plus compliqué que ça. Il y a des moments dans l'histoire où Dieu faisait plus de miracles et il y a des moments où il en faisait moins. Dans le Nouveau Testament lui-même, au fur et à mesure que les Épîtres avancent, l'accent sur les miracles est moins grand et moins présent, d'accord? Et donc, il y a un élément vraiment où il faut laisser Dieu agir et certainement, parfois, on ne voit pas Dieu se manifester de manière extraordinaire parce que nous péchons par manque de foi, mais ce n'est pas le seul élément de l'équation. J'ai vu des gens qui ne manquaient pas de foi, se faire manipuler par des personnes qui leur disaient « Regarde, c'est de ta faute, c'est juste que tu manquais de foi. » Des gens souffrir de maladies, quitter des séances de je ne sais pas quoi, avec la culpabilité de se faire dire que c'est parce qu'ils manquaient de foi. Quelle cruauté, c'est pas ça. D'accord? Alors, Dieu fera les miracles comme il le veut. Régulièrement, je dis à Dieu « je veux te voir te manifester. » Il fera ce qu'il veut. Mais l'élément qui est clair pour moi à travers toute l'histoire de l'Église, c'est que lorsqu'il y a une œuvre puissante de l'Esprit-Saint au milieu de son peuple, lorsque le peuple marche dans la plénitude de l'Esprit, l'amour les uns pour les autres est évident. La passion pour le royaume de Dieu est tellement grande que le style de vie est profondément affecté. L'amour pour la parole de Dieu, la connaissance, le fait que la parole de Dieu habite le peuple de Dieu est évidente. Et donc, cette plénitude de l'Esprit porte un fruit puissant au sein de l'Église, mais dans la ville où cette Église se trouve. Et c'est ça particulièrement que je poursuis dans ce passage-là. Et je crois par la foi qu'on va vivre ce moment où on va se dire, mes amis, l'Église est remplie de l'Esprit régulièrement, quotidiennement, constamment, pas parfaitement, mais constamment. Et l'amour qu'il y a là pour Dieu, pour sa parole, les uns pour les autres, pour les gens autour de nous, est manifeste et affecte profondément notre style de vie. Si vous voulez creuser un petit peu plus ce passage des Actes, allez écouter le message sur cette section-là dans la série sur les Actes. Maintenant, j'insiste sur l'idée d'amour. Parce que c'est comme ça qu'on doit résumer le christianisme. Intéressant, hier soir, on a pris un temps en famille avec les enfants, tout ça, puis je leur ai posé la question, si vous aviez à résumer le christianisme en une seule phrase, comment est-ce que vous le résumeriez? Il y a toutes sortes de bonnes réponses qui sont sorties. Mais Paul David Tripp, un homme que je respecte beaucoup dans son enseignement, répondait à cette question-là en disant, le christianisme se résume à une relation d'amour entre Dieu et les hommes qui est le fruit de l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous. Et tout ce qui découle de la foi chrétienne doit découler de cette relation d'amour-là. Tournez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Tournez avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Alors, ce qu'on veut voir dans l'Église, ce sont des milliers de gens qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ et qui marchent comme disciples de Jésus-Christ. Maintenant, la première valeur sur laquelle on veut travailler, c'est l'Évangile. On l'a résumé comme ça, une Église qui est émerveillée par l'Évangile. Il n'y a rien de ce qu'on va chercher à produire, de ce qu'on va chercher à établir, de ce qu'on va chercher à... Là où on va chercher à grandir, qui ne va avancer, si l'Église n'est émerveillée par l'Évangile, premièrement. Lorsqu'on arrive dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, on trouve le passage qui a été lu, c'est l'Église de Laodicée. Quel est le problème avec cette Église-là? C'est Jésus qui est en train de parler à cette Église et il lui dit au verset 14, « Écris à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu es tiède. Je sais que ton cœur est tombé dans la tiédeur. » Un petit peu plus tôt, au chapitre 2, verset 1, il s'est adressé à l'église d'Éphèse. une belle église, l'église d'Éphèse. Voici ce qu'il dit, Apocalypse 2:1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » C'est une église extraordinaire, n'est-ce pas? Et voici ce que dit Jésus à cette église. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tu as abandonné ton premier amour. » Je ne sais pas ce que vous avez saisi sur le christianisme, mais si ce que vous en avez compris, c'est que ce sont des préceptes pour marcher bien dans la vie, ce sont des conseils pour se sortir du pétrin, c'est un Dieu gigantesque qu'on doit apprendre à craindre parce qu'il est saint, parce qu'il est parfait. Si vous avez compris que c'est une espèce d'organisation où on essaie de se donner de l'amour les uns aux autres puis prendre soin des gens parce qu'on vit dans une société individualiste, si c'est ça que vous avez compris du christianisme, il vous manque encore l'essentiel. Il vous manque encore l'essentiel. Parce que le christianisme, la foi chrétienne, c'est une relation d'amour entre Dieu et les hommes qui est le fruit de l'initiative de Dieu. On vient de fêter la Saint-Valentin. Dieu est cet amoureux-là qui vient faire la conquête de nos cœurs. Et il ne veut pas qu'on devienne des colocs après 5 ans de mariage. Il ne veut pas qu'on devienne les meilleurs amis du monde, tu sais, où il n'y a plus de passion, il n'y a pas d'amour. Dieu n'a rien à cirer d'une telle religiosité. Toujours dans Apocalypse, au chapitre 3, on trouve au verset 20, ce désir, cette relation, ce désir d'une relation intime. C'est encore Jésus qui parle. Voici ce qu'il dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il n'est pas en train de s'adresser à des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, d'accord? Il est en train de s'adresser à des gens qui ont perdu leur premier amour, à une église qui a perdu son premier amour. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Vendredi soir, j'allais reconduire les enfants à la jeunesse. Estan pensait qu'on sortait pour aller manger dans un restaurant. Je lui ai dit, non, reste à la maison, chérie. Va te faire couler un bon bain chaud. Je m'en vais reconduire les enfants, puis je vais te dire quand la table va être mise. Parce que je veux prendre un repas avec toi. Parce que je veux faire la conquête de ton cœur, encore une fois. L'église qu'on trouve dans Acte 2, c'est une église qui vit ce premier amour-là. On pourrait être cynique puis se dire, ouais, mais c'est ça, hein? C'est le début. Ils sont fous amoureux puis ça les transforme. Mais c'est cela que Christ poursuit constamment dans l'église. Une église qui vibre dans son cœur avec ce premier amour-là, qui n'a pas abandonné la passion de la jeunesse de sa foi. Lorsqu'on était en train de discuter à table, Esther, à un certain moment donné, a posé une excellente question. Elle a dit, dans quelle mesure est-ce qu'on voit tout ça, même dans l'Ancien Testament? Est-ce que Dieu a toujours été comme ça? Tournez avec moi dans Osée, s'il vous plaît. Le passage, je vous l'ai lu dans la dernière année. Pour moi, personnellement, c'est probablement le plus beau passage des Écritures. Parce que ça me rappelle qui est Dieu et qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il veut. Dieu est en train de s'adresser ici au peuple d'Israël, d'accord? Et pour Dieu, son peuple, ça a toujours été un peuple. Une épouse, un être qui, par son amour les uns pour les autres, entre en communion avec ce Dieu infini. Et de tout temps, lorsque Dieu a appelé des hommes à venir à lui, c'est dans une relation d'amour qu'il les a invités. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Pourquoi tu l'aimeras? Parce qu'il s'engage à t'aimer. Tu ne l'aimeras pas parce qu'il est grand, il est beau, il est fort, puis il va se fâcher si tu n'es pas gentil. Tu vas l'aimer parce qu'il t'aime, parce qu'il se donne pour toi, parce qu'il vient vers toi, parce qu'il fait les premiers pas pour aller vers toi. Et lorsque Dieu s'adresse ici au peuple d'Israël, le peuple d'Israël a abandonné ce premier amour. La meilleure image que Dieu pouvait prendre, c'est l'image d'un conjoint qui est adultère, qui est allé vers un autre, vers une autre, qui a abandonné cet amour-là. Parce qu'Israël est allé vers d'autres dieux et des idoles sont venus prendre la place dans son cœur, la place qui revient à l'amour de ta vie. D'autres sont venus prendre la place dans son cœur. Et voici ce que Dieu dit à Israël. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Je vais l'amener loin du bruit, loin des dérangements, loin des distractions, là où elle sera entièrement disponible à entendre ma déclaration d'amour. Et je parlerai à son cœur. Je ne sais pas ce que vous connaissez du christianisme, mais si pour vous c'est une religion, cette patente-là, vous avez tellement rien compris. Puis vous allez trouver ça lourd, vous allez trouver ça terrible, accablant à porter comme fardeau. Parce que voyez-vous, le Dieu que nous aimons, celui qui est la passion de ma vie, il est saint, il est parfait, il est beau, il est juste, il est droit, il se tient loin du péché. Puis je l'aime, je veux être comme lui. Comment vous allez faire pour me suivre si vous n'avez pas compris que c'est une relation d'amour? Ça va devenir lourd, cette affaire-là. Tu veux être comme lui, mais il est parfait, Yannick. Oui, mais je l'aime. Je veux être comme lui. Je l'aime. Je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor. Bastien ne comprenait plus rien. Là. C'est quoi cette histoire-là? Mais voilà, si tu aimais ton épouse à l'époque, tu la gâtais lorsque tu la mariais. Tu lui donnais un vignoble, tu lui donnais des terres, des serviteurs, des servantes. C'était en moyen. C'est ça que tu faisais. C'est une manière de lui dire, regarde comme tu es précieuse. Regarde comme tu es belle. Regarde tout ce que je te donne. Voici la maison que je t'offre. Comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, parce qu'elle retrouvera son premier amour. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, il les amenait pour les épouser au désert. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Si c'est ça que vous avez compris du christianisme, c'est qu'on cherchait un maître, vous n'avez rien compris. J'ôterai de sa bouche le nom de tous ses amants, de tous ses dieux, de tous ses baals qui ont distrait son cœur du mien. J'ôterai de sa bouche le nom de tous ses amants. Elle sera tellement en amour avec moi qu'elle ne pensera même plus à eux. Leur nom ne sera plus même nommé au milieu de notre amour. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Et cette prophétie-là a commencé à s'accomplir lorsque Christ est venu, a formé ce peuple nouveau. Elle va terminer de s'accomplir lorsque Christ va revenir. Et donc, il y a tout un langage-là qui est particulier, d'accord? Mais restez avec moi parce que le meilleur reste à venir encore dans le passage. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile et ils exauceront Jisréel. Je planterai pour moi l'eau Rukama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple et il répondra, mon Dieu. Le verset 1, l'Éternel dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce. Et c'est l'Évangile qui apparaît ici dans le passage. Simplement parce que comment est-ce que Dieu peut être fiancé avec cette femme qui a été adultère? Comment est-ce que Dieu peut être fiancé avec ce peuple qui a été infidèle? Dieu peut le faire parce qu'il est venu offrir son Fils en sacrifice sur la croix pour mes péchés. Celui qui a voulu m'épouser m'a regardé et a dit, « Mais tu es indigne de moi. Laisse-moi m'offrir un sacrifice pour te laver. » Et tu vas être digne, tu vas être une épouse tellement belle. Et c'est comme ça que Christ voit toute l'Église. C'est pourquoi notre relation ne repose pas sur la loi. Notre relation repose sur la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Et on est marié à cet époux fidèle. Voyez-vous, lorsque vous nous entendez revenir constamment à l'Évangile, à travers les messages, si ce qu'on vous communique, c'est fondamentalement qu'on est en train d'annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais pardonnez-nous, c'est qu'on ne fait pas encore bien notre travail. Si ce que vous entendez lorsqu'on revient constamment à l'Évangile, c'est que vous dites, « Ah, Yannick ne s'adresse plus à moi, il est en train de s'adresser à celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Pardonnez-moi, j'ai besoin de grandir. Je ne fais pas bien mon travail. » Parce que lorsque je retourne à l'Évangile dans chacun des messages, je veux me tourner vers la personne de Jésus-Christ. Je veux élever Christ à travers le passage parce que c'est lui qui est la clé pour vivre ce passage-là dans nos vies. Et si ce que vous en retenez, c'est fondamentalement que je suis en train de m'adresser à des gens qui seraient en visite, c'est que j'ai besoin de grandir encore comme enseignant. Parce qu'on veut, comme Église, porter cette valeur dans nos cœurs. Non pas seulement de savoir annoncer l'Évangile à celui qui a besoin de l'entendre parce qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu, mais parce qu'on veut être émerveillé par l'Évangile. On veut que nos cœurs soient quotidiennement bouleversés, alimentés par l'Évangile de Jésus-Christ, par la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est en lui qu'on puise la joie, la force pour vivre tout ce qu'il attend de nous dans sa parole. Par la grâce de Dieu, au cours des prochaines années, on va continuer à être centré sur l'Évangile, on va continuer à exposer Jésus-Christ à travers tous les passages de la Bible où on s'en va. Et par la grâce de Dieu, cette passion-là va grandir dans l'Église. Vous allez apprendre de plus en plus à l'articuler, à le voir, à voir Christ à travers toutes les Écritures. Mais ça va être présent dans votre vie et ça va porter vos cœurs dans la louange. Et vous savez quoi? C'est ça qui va nous garder de devenir religieux. De devenir des gens qui font les choses parce qu'il faut faire les choses. De devenir des colocs avec Dieu. Parce qu'on est un vieux couple qui s'endure en attendant que ça finisse. Certains d'entre vous, vous êtes actuellement des colocs avec Dieu. Vous l'avez connu, l'amour s'est tari, s'est éteint un peu, puis vous vous endurez. Vous connaissez vos habitudes l'un de l'autre, vous vous respectez pour ne pas trop vous piler sur les pieds. Et les gens autour de vous, c'est ça qu'ils voient dans votre vie. Vous êtes des colocs de Dieu. Vous parlez de lui comme quelqu'un de distinct, que vous avez appris à respecter. Mais lorsqu'ils vous entendent parler de Dieu, ils ne vous entendent pas parler d'un premier amour. On veut être une Église qui est émerveillée par l'Évangile. Deuxièmement, on veut être une Église qui connaît la parole de Dieu sur le bout de ses doigts. Ça fait partie de nos valeurs comme Église, d'accord? D'être là dans la parole, de connaître la parole. Mais il y a deux éléments que je veux souligner ici. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, pour former. Et l'Église est en train de vieillir, avance à travers le temps. Et là, je vais m'adresser aux plus jeunes générations. D'accord? Je m'adresse aux plus jeunes générations parce que vous ne connaissez pas la Bible comme les boomers ici la connaissent. Ça, c'est vrai ce que je vous dis là. Vous ne lisez pas les Écritures comme les plus vieux le font. Et je sais, il y en a des plus vieux qui vont me dire, « Yannick, arrête, tu es en train de nous mettre de la pression. » Non, ces disciplines-là sont en train de se perdre. Et lorsque je m'assois avec vous et que je vous dis, « OK, dites-moi pour le fun, c'est quoi les passages qui nous parlent de ce qu'un mari doit faire pour son épouse? » Si je reste silencieux trop longtemps, vous avez juste deux passages à me nommer. Comment ça se fait? Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu sur le bout de vos doigts. Et comme Église, on veut grandir dans ça. Mais le deuxième élément qui est super important, c'est qu'on veut être habité par la parole. Ce matin, il y a un jeune homme qui me partageait assister dans une église à une espèce de manifestation de l'Esprit. Puis là, son cadre pour comprendre ce que la parole de Dieu enseigne sur le Saint-Esprit revenait. Puis là, il disait, « Oups, ça ne marche pas. Il y a tel passage qui est là, ça ne fonctionne pas, d'accord? » connaît la parole. C'est merveilleux. Maintenant, il y a des gens qui vivent des choses avec Dieu, qui vivent des expériences avec Dieu, et ça ne vient pas de la parole. Nous voulons être habités par la parole de Dieu parce que toutes les expériences que je vais vivre avec l'Esprit-Saint vont presque toutes venir d'une révélation de la parole de Dieu. L'Esprit parle à travers sa parole. Ça arrive que le Saint-Esprit parle autrement. Ça arrive que je vais jaser avec un frère, avec une sœur, puis il va dire quelque chose, puis boy, c'est Dieu qui est en train de m'interpeller. C'est vrai, ça arrive. Ça arrive que Dieu parle à travers des circonstances. Ça arrive aussi. Mais l'Esprit parle premièrement à travers sa parole. Et donc, on veut avoir la parole de Dieu, la connaître sur le bout de nos doigts. Pourquoi? Parce qu'on veut être habité par la parole de Dieu. Nous voulons être une église qui s'investit à fond dans la formation de disciples. On veut être une église qui s'investit à fond dans la formation de disciples. Je vais répéter quelque chose que je répète depuis quelques années. Je sais que ça en trouble quelques-uns. Écoutez-moi, ouvrez vos cœurs, s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'Esprit-Saint était donné, l'Esprit-Saint venait sur les leaders. Souvent des hommes, parfois des femmes. L'Esprit venait sur le leader. Puis Dieu a annoncé qu'un jour viendrait où l'Esprit serait donné à chacun de ceux qui croient, viendrait faire sa demeure en eux, et ils deviendraient eux-mêmes des enseignants. Ça ne veut pas dire que tout le monde est appelé à devenir pasteur, mais ça veut dire que chacune des personnes qui a connu Jésus-Christ est habitée par l'Esprit de Christ, est habitée par l'Esprit de Dieu et est appelée à communiquer, à enseigner sa foi. Il n'y a personne ici qui connaît personnellement Jésus-Christ qui n'est pas concerné par la formation de disciples. Chacun selon nos dons. Certains, c'est l'enseignement. D'autres, c'est le service. Certains, c'est la prière. Mais il n'y a personne ici qui connaît personnellement Jésus-Christ qui n'est pas concerné par la formation de disciples. Ce n'est pas vrai, ça. Parce qu'on vit à cette époque où Christ est venu, nous a donné son esprit. Si vous êtes chrétien, vous avez l'Esprit de Dieu. Vous lisez les Écritures avec des yeux qui sont uniques à celui qui a l'Esprit de Dieu. Et vous êtes appelé à partager votre foi, à partager votre foi avec des frères et sœurs qui ont besoin d'être inspirés par vous. Plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés carrément à vous investir, à pouvoir dire, regarde, je suis en train de m'investir en lui, je suis en train de m'investir en elle, à travers mon service, à travers notre petit groupe, à travers des relations. On l'a invité à venir vivre chez nous, il a besoin, il arrive d'une famille brisée, je veux y apprendre c'est quoi une famille chrétienne. Viens vivre chez nous, déménage dans mon sous-sol, come on, je vais te montrer c'est quoi, je vais faire de la formation de disciples avec toi. Mais on veut devenir une église qui s'investit à fond dans la formation de disciples. Et ce n'est pas vrai que c'est en venant prendre un cours avec Yannick sur le coaching qu'on apprend à faire ça. On voit des préceptes bibliques ensemble. Mais ça se fait en s'investissant dans la vie les uns des autres. Et dans la mesure où Dieu va répondre à notre rêve, à notre vision de voir des milliers de personnes devenir disciples de Jésus-Christ, ça va demander que les centaines qui sont devant moi ce matin se sentent concernées par la formation de disciples. Les seuls qui pourraient ne pas se sentir concernés, c'est ceux qui disent « disciples de Jésus ». Je me suis trompé d'adresse ce matin. On veut être une église qui va s'investir à fond dans la formation de disciples. Nous voulons devenir une église. Nous voulons devenir une église qui va envoyer des équipes solides pour implanter des églises. Et ça fait partie de nos valeurs, d'accord? Dans son histoire, l'Église de l'Espoir a participé à l'implantation de plusieurs églises. Dans notre histoire récente, mon frère Hugo est parti implanter une église à Rivière-du-Loup. C'est un peu loin pour l'envoyer avec 80 personnes, d'accord? Mais c'est la vision de l'Église. C'est d'implanter, Dieu voulant, au plus tard, dans 5 ans, une première église. Avec une équipe solide. Ça veut dire qu'on va former des anciens dans l'Église ici, on va former des pasteurs, on va former des diacres, on va former des diaconesses. Et ça veut dire que chacun d'entre nous, si nous sommes chrétiens, on va apprendre à se voir comme des missionnaires. Chacun d'entre nous, nous sommes des missionnaires. L'Église, dans le livre des Actes, n'avait pas saisi cela. Et Jésus a dit, je vais vous l'enseigner. Il a envoyé une persécution à Jérusalem. Et à force de persécution, les gens se sont dispersés. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc nous dit que partout où ils allaient, ils annonçaient l'Évangile. Il a dit, OK, la gang, vous ne l'avez pas catché, je fais tomber une bombe. Pas juste un toit qui coule, ça va exploser cette affaire-là. Vous allez vous répandre partout, vous êtes des missionnaires. Et donc, on va chercher à grandir à travers les 5 prochaines années, grandir dans cette compréhension que nous sommes tous des missionnaires. Premièrement dans mon lieu de travail, premièrement dans ma famille, premièrement dans mon quartier. Mais si Dieu le veut, n'importe où. Amen? Eh boy. Dans 5 ans, je vous le dis, ça va être plus que ça. Chacun d'entre vous. Et ça veut dire qu'il y en a qui vont partir. Ça veut dire qu'on va se séparer. Ça veut dire qu'il y a, dans 5 ans, 80, 100 personnes qui vont partir d'ici. On va être 500, ils vont partir avec un implanteur, ils vont partir avec 3 anciens. On est en train de regarder ce qui s'en vient au niveau des anciens en formation. Dans 24 mois, il devrait y avoir 15 personnes sur le conseil, une dizaine d'anciens, 5 anciens en formation. En gros, juste avec ce que nous, on planifie puis qu'on voit comme appel. Puis Dieu peut nous surprendre encore. Alors, dans 5 ans, c'est 3-4 anciens qui vont partir avec un implanteur, avec 80, avec 100 personnes. Parce qu'on n'est pas ici pour être confortable ensemble. On est ici pour répandre l'Évangile de Jésus-Christ. Et la Montérégie et Montréal ont profondément besoin qu'on soit en train d'implanter des églises. Parce que l'église locale, c'est le plan de Dieu. C'est à travers une église locale que le témoignage se multiplie et qu'il y a un impact. Et souvent, je dis aux gens, vous décidez de vous acheter une maison loin, c'est parce que Dieu vous appelle loin. Parce qu'on croit dans l'église locale. Alors, le jour où tu vas venir me voir, puis tu vas dire, OK, Dieu m'a parlé, maintenant, il faut que je m'implique là, je vais dire, écoute, je le savais. Je le savais. Dieu t'avait préparé pour partir, c'est sûr, c'est sûr. C'est certain. C'est correct. C'est bien comme ça. Mais nous voulons devenir ces églises-là. Et ça veut dire qu'il faut apprendre à se voir comme des missionnaires puis pas s'installer trop confortablement. Il y a un prix à payer. Quand mon frère est parti, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'église, quand mon frère est parti pour Rivière-du-Loup, je l'ai pleuré pendant 2 ans. Pour de vrai, là, je vous le dis, la première fois que je suis allé le voir à Rivière-du-Loup, c'était tellement laide pour moi comme région. Plus j'avançais là, plus j'avais l'impression que c'était sombre. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est parti par là-bas? C'est juste mon cœur qui criait, Hugo. On était ensemble dans l'œuvre, man. On revient tellement de loin, le Seigneur nous a rachetés. Viens-t'en, on va la bâtir ensemble, cette église-là. Puis aujourd'hui, quand les gens viennent me voir puis ils me disent, regarde, je pense que Dieu m'appelle. Ah, des fois, il y a cette pensée-là. J'espère qu'on va retravailler ensemble. Mais il y a cette joie-là. Et par la grâce de Dieu, c'est ça qu'on va devenir. Enfin, en terminant ce matin, par la grâce de Dieu, on va devenir une église qui va envoyer des missionnaires. Qui va envoyer des missionnaires, qui va envoyer des missionnaires. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous voulez rester confortable, changer d'église, ça presse. Parce que si vous restez ici, nous autres, on prie pour que Dieu vous appelle. Comprenez? Puis, je prie plus que je priais au début de mon ministère. Je suis un petit peu plus branché que je l'étais au début. Alors, si vous voulez être confortable, restez pas ici. Mais si vous voulez être confortable dans l'Esprit-Saint et avoir la joie de vivre une vie chrétienne à fond la caisse, mais là, vous êtes à la bonne place. Et Dieu va appeler des missionnaires ici. Amen? Ah, c'est correct, il y en a un petit peu plus. Ça, c'est 5 valeurs racines, d'accord? Je vais m'arrêter ici, je m'étirerai encore. Ça, c'est 5 valeurs racines. Et si ce matin, je vous fais peur avec ces choses-là, retournez à l'Évangile. Retournez à l'Évangile. Qui prend mari, prend pays? Et moi, j'ai épousé Christ et la terre est mon pays. Le Seigneur m'appelle où il veut, quand il veut, pour le servir. Je vais suivre mon mari là où il m'appelle. C'est ça qu'on veut devenir comme Église. Maintenant, la semaine prochaine, on va voir celles qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. Là, on est resté dans notre zone de confort ce matin, je vous le dis. Bien confortablement assis dans nos valeurs. La semaine prochaine, on commence à bouger.